J'aimerais qu'on lise un passage, deux passages de l'Écriture qui sont sur la même thématique. Nous allons lire le premier passage qui se trouve, si vous avez vos Bibles, dans Ésaïe au chapitre 5 et au verset 1. Nous allons lire les sept premiers versets et je vais vous proposer un petit exercice. C'est qu'on fasse silence après cette lecture et que vous preniez 2-3 minutes simplement, pas simplement pour vous imprégner du texte, mais pour vous poser la question, c'est une question toute simple, en quoi ça me concerne? En quoi ce texte-là me concerne moi? Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je le lis et ensuite on prend un temps de silence. Et ça sera vrai aussi pour ceux qui éventuellement écouteront la prédication sur Internet. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et imite un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé. De la justice. Et voici des cris de détresse. En quoi cette parole peut-elle me concerner? Je vous invite à lire un deuxième texte dans l'évangile de Marc au chapitre 11, des versets 27 du chapitre 11 au verset 12 du chapitre 12. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 27, et on lira jusqu'à au verset 12 du chapitre 12 qui est le suivant. Je vous laisse trouver. Vous avez le texte sous les yeux aussi à l'écran. On va faire la même chose, on va le lire. Et on aura un temps de silence où je vous inviterai à vous poser cette question. En quoi ce texte peut-il me concerner? Peut-il me concerner? Marc 11, 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui. Et ils lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité pour les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya à nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Ah, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. « Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. » N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, et ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. En quoi cette parabole nous concerne? Amen. Nous sommes face à une parabole dans l'évangile de Marc. Et les paraboles, ce sont des moyens, on le verra après, pour Jésus de parler de choses importantes et spirituelles à partir d'un récit, soit s'appuyant sur la réalité, soit étant imaginaire. Et quand on a une parabole, le risque, c'est d'interpréter chacun des éléments et de faire en sorte que ça s'adresse toujours aux autres. Ouais. Est-ce qu'on est les vignerons ? Non, les vignerons, là, A priori, si on joue le jeu de la parabole, ça illustre l'attitude des sacrificateurs, des scribes et des anciens. Peut-être un ancien pourrait-il se sentir concerné. Il n'y a pas d'ancienne puisqu'elle n'est pas là ce matin. Mais pour tous les autres, on pourrait dire, vous êtes pas, c'est pas pour vous. Or, le risque de la parabole, c'est de faire une interprétation dont on s'exonère. Ce récit nous concerne, et en plus, il est un récit éminemment christologique, c'est-à-dire centré sur Christ. Et quand on dit christologique, c'est toujours dans le sens du salut. C'est un récit christologique centré sur le salut. Donc, à partir de là, sommes-nous concernés ? Je vous en laisse juge. Ce récit intitulé « La parabole des vignerons » se trouve dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, hein, les trois évangiles qu'on peut mettre côte à côte sur trois colonnes et on va les lire ensemble. Mais cette parabole renvoie au texte que nous avons lu ensemble, d'Ésaïe au chapitre 5, où le prophète condamnait le peuple d'Israël et les autorités civiles, quand il est dit ici, les sacrificateurs, les scribes et les anciens, ce sont les anciens de la ville, de la cité. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir religieux et le pouvoir civil qui sont là présents. Et donc, dans Ésaïe, le prophète condamnait le peuple d'Israël et ses autorités civiles et religieuses sur leur trahison à la pensée de Dieu et à l'appel qu'ils avaient reçu. Sommes-nous concernés ? Je le crois, puisque nous sommes tous sacrificateurs du Dieu très haut. Sommes-nous en position de trahison de la mission qui nous a été confiée, de l'appel qui nous a été accordé aux uns et aux autres, femmes comprises ? Il y a de l'égalité dans l'appel. Pas encore dans la société civile française, je vous l'accorde, mais dans l'appel de Dieu, il y a de l'égalité. Alors, cette parabole qui est dans l'évangile de Marc, contrairement aux deux autres dans Matthieu et Luc, elle a une particularité. Et si je posais la question à Hervé, voilà, il va me répondre. Non, je vais pas te faire la blague. Nous avons passé beaucoup de mois, voire d'années, à étudier l'écriture et la théologie ensemble pour poser les fondements de notre foi commune. Et on s'appuyait sur un livre de Karl Barth qui reprenait le credo. Et quand on travaillait là-dessus et qu'on était dans l'écriture, je lui disais toujours, quand on lit un texte, faisons attention de voir le contexte. C'est-à-dire que dans cette parabole, celle de Marc a une particularité que n'ont pas celle de Matthieu et de Luc. C'est qu'elle s'appuie sur le récit qui est avant la parabole. C'est pour ça que j'ai pris le chapitre 11, versets 27 à 33, ce qui n'est pas présent dans la parabole reprise par Matthieu ou par Luc. Et pourquoi ? Parce que cette parabole, elle est donnée par Jésus, lorsque c'est rapporté par Marc, parce qu'il y a une controverse entre les sacrificateurs, les scribes et les anciens qui disent au verset 27 précédent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et c'est cela, de cela que va découler l'apport de la parabole qui s'adresse donc bien aux sacrificateurs, aux scribes et aux anciens, c'est-à-dire à toute la société civile et religieuse. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? C'est la particularité de ce texte de l'évangile de Marc. Cela part de cette contestation, de cette controverse des autorités qui disent « Mais quelle est ton autorité pour faire ces choses ?» Se pose la question, c'est « De quoi parle-t-il ces choses ? C'est quoi ?» Mais en tout cas, la parabole pour Marc, elle découle de cette interpellation. Alors, ça vient donc répondre à la question des scribes, des sacrificateurs et des anciens. C'est quoi ton autorité ? En quoi tu as de l'autorité pour nous parler et agir comme tu le fais ? Lorsque Jésus, au verset 1 du chapitre suivant, parle, il s'adresse à eux, à ces personnes-là, en parabole. Ça veut dire qu'il renvoie à la question de l'autorité de Jésus au travers de cette parabole. Il dit, voilà, quel est votre positionnement à vous qui êtes dans l'opposition, dans la remise en cause ou le questionnement de cette autorité que j'aurai. La fin de la parabole au verset 12 dit « Le laissant, ils s'en allèrent ». Nous avons bien donc une péricope complète entre l'interpellation de ces religieux et civils de la société et la fin de la parabole où il est dit ben, « Quand ils l'ont entendu, ils l'ont laissé, sont allés et sont allés, je dirais, continuer leur combat ailleurs ». Mais pour bien comprendre l'enjeu et le sens de cette parabole, si le centre du texte est ici porté sur l'autorité de Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses, il serait bon de définir la question de l'autorité dont il est question. C'est quoi l'autorité? Et souvent, quand on parle d'autorité, on confond l'autorité et le pouvoir. Il y a un lien entre les deux. Mais dans le texte de l'Évangile, le terme utilisé pour parler de quelle autorité fait cela, c'est le terme grec « exousia ». Et j'étais repioché dans mon gros dictionnaire grec. Le nom ou la définition de ce mot, c'est le pouvoir de faire une chose. L'autorité, c'est le pouvoir de faire une chose. C'est-à-dire, de l'autorité découle le pouvoir de faire quelque chose. Alors, pouvoir d'autorité, quand on dit que quelqu'un a un pouvoir d'autorité, c'est qu'il a une influence. Est-ce que Jésus a une influence? Est-ce qu'il a une autorité et une influence? A priori, au moment où ces hommes le questionnent, il a une influence sur la société environnante. La question se poserait aussi, en quoi ce texte vous concerne, me concerne, c'est est-ce que l'autorité de Jésus a une influence sur votre vie? Si elle n'a pas d'influence sur votre vie, ou si elle a une influence partielle sur votre vie comme dans la mienne, ça veut dire qu'il a une autorité partielle et pas totale. Le pouvoir d'autorité, c'est l'influence et de droit. C'est-à-dire qu'il a un privilège. Avoir une autorité, c'est avoir des privilèges et des obligations. Mais avoir une autorité, c'est avoir des privilèges. Est-ce que Christ a un privilège sur la société dans laquelle il évolue? Oui, il a des disciples qui l'acceptent, qui le reçoivent, qui acceptent de le suivre. Viens et suis-moi. Et ils le suivent. Il a donc le privilège de pouvoir emmener à sa suite, dans une direction précise, ceux et celles qui lui accordent cette autorité. Alors, le pouvoir, c'est aussi un pouvoir, l'autorité, c'est aussi une juridiction. Vous savez qu'il y a des juridictions qui ont de l'autorité. Dans mon travail, la juridiction qui avait de l'autorité sur tout le travail que je pouvais faire avec mes collègues dans la santé, c'était l'Agence régionale de santé. Et au-dessus, il y avait le ministère de la Santé. Et puis au-dessus, il y avait l'État français. Donc, avoir de l'autorité, c'est aussi relever d'une juridiction. Quelle est la juridiction dont relève Christ? Est-ce que c'est celle du pouvoir religieux de son époque? En fait, il donne la réponse dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » Il dit cela à Pilate. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Puis Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus affirme de manière très claire quelle est la juridiction dont il relève et qui lui donne de l'autorité. Ça a dû chatouiller, gratouiller sérieusement les sacrificateurs, les scribes et même les anciens de la ville de Jérusalem. Alors nous avons vu que le texte souligne le questionnement des opposants à Jésus concernant son autorité à faire, son droit à faire ce qu'il fait. Or le verset 27 dit que Jésus est à nouveau dans le temple. Moi, je me suis posé la question et beaucoup d'exégètes se sont interrogés sur, mais à cette question-là, de quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a ordonné? Mais c'est de quelle chose est-ce qu'il parle? Est-ce que c'est les choses, le fait de guérir des malades, de ressusciter des morts, etc. Et beaucoup, en fait, mettent ce lien, ces choses, avec le fait qu'au verset 27, il est dit « Il se rendit de nouveau à Jérusalem et donc à nouveau dans le temple. » Et en fait, ce que reprochent les religieux, c'est l'attitude et ce que fait Jésus quand il vient au temple. Et dans l'évangile de Marc, en fait, il est venu trois fois. La première, c'est au chapitre 11, verset 11. Il est dit qu'il rentre dans le temple, il se contente de regarder, et puis il ressort. La deuxième, c'est quand il chasse, au chapitre 11, verset 15, quelques heures plus tard, les marchands du temple. Et puis là, dans ce texte-là, je ne sais pas si ça vous a intrigué, mais il y a une formulation que je trouve étonnante. Jésus se promenait dans le temple. C'est dimanche après-midi. C'est comme les chrétiens, vous savez. Qu'est-ce que tu fais? On va se promener. On ne pense pas à Jésus. On imagine qu'il est toujours affairé aux affaires, aux choses de son Père. Et là, il est dit, il se promenait dans le temple. Pourtant, quand Jésus est là, c'est jamais tout à fait ordinaire. Et ces trois visites au temple peuvent éclairer la question des grands prêtres, les scribes et des anciens. Pourquoi fais-tu ces choses? Ça peut faire référence à son ministère hors cadre pour les religieux. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? La première fois, tu rentres, tu regardes, tu repars. Vous imaginez que le président de l'Église apostolique rentre dans cette salle, pousse la porte, il n'est jamais venu, hein. Et puis qu'il vienne, qu'il fasse le tour, il dit bonjour, et puis qu'il s'en aille. Oh là, drôle de visite, hein. Et puis la deuxième fois, il chasse les marchands du temple, c'est-à-dire qu'il met en dehors tout ce qu'il considère comme contraire à ce que Dieu veut faire dans le temple. La présence de Dieu n'est pas une affaire de marchandage et de commerce. Et la troisième, eh bien, c'est quand il rentre et puis qu'il se promène. Est-ce que Dieu se promène? Est-ce que Jésus se promène dans l'église de Kevin? Est-ce qu'il se promène dans nos vies? Puis qu'il dit, bon, ben voilà, c'est... ouais, je vois. Et qu'il ne dise rien. Il se promène de manière un petit peu négligée, comme ça. Est-ce qu'il se promène dans vos vies, Jésus? Ou bien est-ce que c'est des moments autres qu'une simple promenade, une simple présence comme ça? Alors, en tout cas, les religieux, eux, ça les intrigue, ces trois manières d'être et de faire dans le temple. Ce qui interpelle et dérange les autorités juives, c'est la liberté que Jésus s'octroie, qui vient dans le temple, non comme un simple croyant, mais comme quelqu'un qui le regarde avec un certain regard critique, une distance volontaire par rapport à ce qu'elle vit, cette communauté juive. Comment tu vis ta foi? Eh bien, Jésus regarde cela avec une certaine distance. Comment tu peux te permettre de faire ces choses? Et les autorités religieuses sont choquées par l'attitude et le comportement. Comment tu peux te permettre de faire ces choses? C'est cela, pour beaucoup d'exégètes, qui est reproché à Jésus. Ils oublient que Jésus, à partir du moment où tu conçois qu'il est le maître de la vigne, il est le propriétaire du terrain, du temple et de ce qui s'y passe. Comment peux-tu faire ce que tu fais? Il est dit au chapitre 1, verset 22, que c'est bien la question de l'autorité de Jésus qui est en question dans l'évangile de Marc. Quand Jésus, au chapitre 1, verset 22, entre dans la synagogue de Capernaum et qu'il se met à enseigner, il est dit qu'ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité. Comme ayant autorité, et non pas comme un scribe. Qu'est-ce qu'il disait, le scribe? Mais comment tu te permets de faire ça? Quelle autorité? Eh bien, il enseignait, non pas comme un scribe, mais comme Dieu au milieu des hommes. Est-ce que Jésus, dans ma vie, dans votre vie, il vous enseigne comme un scribe? Il vous dit, tiens, il faut faire attention. Ah oui, j'avais un truc que j'avais remarqué dans le texte grec et dans le texte français, c'est le verset 11 de ce texte. On peut mettre le verset 11 de Marc 12. pouvez le... Je sais pas si on va le trouver, ça. Un petit signe. Chercher. Alors moi, j'ai verset 11, verset 20. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Excusez-moi. Je suis obligé d'avoir le téléphone pour mes oreilles. Il n'y a pas un petit truc qui vous dérange dans ce verset 11 ? Et qui n'est pas dans le texte grec ? Enfin ! Enfin ! Je suis même sûr que dans la version chinoise, mais Shuai, il doit y être ce signe et il ne devrait pas y être. Le point d'interrogation ! Quand vous lisez le verset 11, c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. C'est autre chose que si vous lisez, c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Ça ne veut pas dire la même chose. Et j'ai mis le point d'interrogation en rouge. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Parce que dans le texte grec, il n'y a pas de point d'interrogation. Mais ça veut dire que, quelque part, il y a une question qui peut se poser à ceux qui sont confrontés à ce qui est juste au-dessus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, c'est un prodige. C'est par la volonté de Dieu que c'est arrivé. Et est-ce que c'est un prodige ou c'est pas un prodige ? La question, elle est là. Alors, on peut le mettre ou pas le mettre. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Pour les scribes, la réponse, elle est non. Juste après, ils cherchaient à se saisir de lui, ils craignaient la foule, et après, ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est-à-dire, c'est pas un prodige, cette histoire ! Vous voyez ? La réponse des scribes. Et c'est vrai que, quelque part, il y a cette autorité de Jésus qui est centrale. Quelle est son autorité pour ceux qui sont en face de lui ? Pour les scribes, non, c'est pas un prodige, hein. On ne va pas le dire, mais on sort, on quitte, et puis on va faire le nécessaire pour s'en débarrasser. Et puis pour moi, est-ce que c'est une autorité dans ma vie ? Il y en a d'autres qui ont été interpellés. C'est au chapitre 3, verset 21, il est dit que la foule s'assemble autour de lui, des gens de sa parenté. Des gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car elle disait, il a perdu le sens. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzébul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Son autorité, elle est là, elle vient de là. Mais ce qui m'a étonné dans ce chapitre 3, verset 21, c'est les gens de sa parenté, on commence à dire, il a perdu la tête, il est maboule. Des gens de sa parenté. On dit parenté, qui c'est ? Certainement pas Marie, puisqu'elle gardait ces choses en son cœur et qu'elle regardait. Mais je me disais, est-ce qu'il y avait Jacques et Jude, les gens de sa parenté, ses frères, selon la chair, qui sont devenus apôtres après, dont Jacques, responsable de la communauté de Jérusalem. Est-ce que c'est Jacques et Jude étaient dans le paquet de la parenté ? Puis je me disais, chers amis, est-ce qu'on pourrait être, nous, de la parenté de Jésus, nous qui le connaissons bien, qui sommes de sa famille, nous sommes vraiment de sa famille. Mais pour autant, son autorité, est-ce qu'elle nous semble pas un peu excessive, un peu trop envahissante, parfois incompréhensible ? Est-ce que c'est une autorité qu'on reçoit ou bien est-ce qu'on se dit... Ouais, là, c'est peut-être un petit peu hors de sens, non ? Ça va pas un peu trop loin ? Moi, je suis certain que si, acceptant l'autorité de Christ, nous en parlons à ceux qui ne le connaissent pas, ils diront, ouais, non, mais ça va un peu loin, votre histoire. Déjà, tous les dimanches matins, vous allez à l'église ? Faut se lever alors que vous pourriez faire la grâce matinée ? Il paraît que Catherine a fait la grâce matinée jusqu'à 7h du matin. Ah ben si, ça, c'est une grâce matinée pour Catherine. Mais tous les dimanches, elle est là. Est-ce que c'est hors de sens de se consacrer, de se donner et de vivre la foi selon les critères de l'autorité qui qui s'impose à nous. Il y a une chercheuse en sciences de l'éducation dont j'ai lu un texte, Anne-Claire Husser, qui définit l'autorité. Alors, c'est pas toujours très simple, mais je vous demande vraiment votre attention. Elle disait, excluant l'usage de moyens extérieurs de coercition, c'est-à-dire de violence et de force. L'autorité se distingue de la force en ce qu'elle implique nécessairement la reconnaissance de celui sur lequel elle s'exerce. Je répète. Excluant les moyens extérieurs de coercition, c'est-à-dire la contrainte et la force. L'autorité se distingue de la force en ce qu'elle implique nécessairement la reconnaissance de celui sur lequel elle s'exerce. Le droit resterait le droit quand bien même il s'appliquerait à des individus qu'il subirait sans le reconnaître. Le droit, ça reste le droit. Hein, même si on ne le connaît pas, il reste le droit. Mais il n'en va pas de même de l'autorité. L'autorité légitime par définition. Celle-ci cesse d'exister au moment même où elle cesse d'être reconnue. L'autorité cesse d'exister au moment même où elle cesse d'être reconnue. Contrairement à la domination, l'autorité constitue une puissance qui n'agit que moyennant la participation de celui sur lequel elle s'exerce. Elle s'institue dans et par le mouvement même de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'une autorité disparaît dès lors que celui sur lequel elle s'applique ne la reconnaît plus. Il y a quelques chefs d'entreprise ou responsables qui sont là, ils ont une autorité qui est sur leur personnel. Mais dès que le personnel ne reconnaît plus cette autorité, même si elle est légitime, eh bien, le lien disparaît et la chose disparaît. Et ça, on rentre dans une phase de conflit. Il en va même de l'autorité de Jésus. Les scribes, les maîtres de la loi, du temple, etc., ne reconnaissent pas son autorité. Dès lors qu'ils ne la reconnaissent pas, il n'a aucun pouvoir sur eux. De même sur nous, l'autorité de Christ n'est présente et n'a d'effet et de valeur, que si nous la reconnaissons en tant que telle. L'autorité ne s'impose pas par celui qui est censé en être le détenteur. Elle est une puissance qui n'agit que qu'en moyen de participer sur celui sur lequel elle s'exerce. L'autorité de Christ est de cette nature. Je n'ai pas à la craindre, cette autorité, malgré tout. C'est ça la peur de l'autorité. C'est que cette autorité donne un pouvoir qui restreigne ma liberté, qui pénètre dans ma vie, qui altère ma liberté. Mais Christ dit, cette autorité-là, elle repose dans un cadre bien particulier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28. L'autorité de Christ repose sur ce bouleversement des valeurs. Pourquoi aurais-je peur de son autorité dans ma vie? Pourquoi aurais-tu peur qu'il prenne autorité, que tu lui accordes cette autorité-là? Alors, nous sommes chacun pour notre part face à cette nécessité de choisir, d'accepter l'autorité de Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire? En quoi sommes-nous concernés par ce texte? Nous y sommes concernés parce que nous pouvons, à des moments de notre existence, être de ceux qui modulent l'autorité de Jésus en fonction de nos craintes, ou de nos désirs, ou de nos envies, ou de... du désir de conserver notre liberté. C'est pas vrai? Oui. Qu'allons-nous faire? C'est là que j'ai hésité à écrire le verset qui suit. Qu'allons-nous faire face à cette autorité? je prends ou je laisse, ou je ne prends qu'en partie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, 19. Mais la vie n'est possible que par l'acceptation de l'autorité de Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Je me vois mal commencer, comme Job, à négocier avec Dieu sur ce que je prends ou je ne prends pas, ou sur la définition de ce que serait ma justice. Où étais-tu, dit Dieu à Job, lorsque j'ai créé le monde ? Et au bout de quelques dizaines de chapitres, tout à coup, Job dit, bon, ok, d'accord, j'ai peut-être parlé un petit peu vite et par excès de confiance en moi-même. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons quand Dieu nous reprend, quand le Saint-Esprit intervient dans nos vies ? À la question des religieux, Jésus ne tombe pas dans le piège de s'auto-instituer envoyé de Dieu. Il doit être arrêté. S'il doit être arrêté par des responsables religieux, il faudra que ce soit leur propre initiative, de leur propre décision. C'est la formalisation de ce choix qui nous appartient, que ce soit pour aller vers la vie ou pour aller vers la mort. J'en suis responsable. Je ne pourrais jamais dire « Ah mais je n'étais pas au courant, il ne m'a pas parlé, je ne savais pas. » Si, je sais, mais j'ai fait le choix de l'autorité de Christ ou pas, ou d'une autorité partielle. Quand j'étais jeune chrétien et que je découvrais la Bible, tout au début de ma vie chrétienne, il y a quelques décennies, sans avoir aucune culture biblique, moi j'étais d'une famille non chrétienne, je me demandais souvent pourquoi Jésus, dans les évangiles entre autres, ne disait pas de manière très claire « Je suis le Fils de Dieu, croyez en moi, j'ai été envoyé. » Il le dit, mais il ne l'affirme pas de manière... Parce qu'il laisse la liberté à ses interlocuteurs de reconnaître son autorité ou pas. Ça ne doit pas être exogène, mais endogène. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de l'être humain que le choix doit se faire. Et non pas parce qu'une autorité à l'extérieur. Le nombre de fois où on a justifié nos choix parce que l'autre m'a dit. Et je me rappelle d'un ami très cher qui est décédé maintenant, et qui était célibataire, et qui est resté célibataire longtemps. Et puis, il y avait une jeune fille dans l'église, et il a été demandé au pasteur de son église, est-ce que tu penses que cette jeune femme qui est dans l'église, j'ai des sentiments pour elle, est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être ma femme ? Est-ce que pour toi, c'est un signe de Dieu, etc. Et le pasteur, il a dit oui. Ah, je vous assure, il a dit oui. Et il m'en a reparlé, ce frère. Et il a basé son mariage sur la parole du pasteur. C'est un signe de Dieu pour moi, pour ma vie. Et donc, il s'est marié. Ils ont eu une fille. Et puis, le mariage a été un échec. Et il m'en a parlé. Il m'a dit, tu vois, j'ai réalisé dans ma vie que le choix que l'on doit faire ne repousse pas sur un autre, quelle que soit son étiquette et sa fonction, qu'il soit sacrificateur ou pas, il doit reposer sur ma conviction intérieure et personnelle. C'est payer cher la leçon. Quels sont, pour vous et pour moi, les ressorts de l'autorité de Christ à l'intérieur de ma vie. Et aux sacrificateurs et autres, il leur dit, je ne vais pas vous répondre comme cela. Et il leur pose une contre-question. Le baptême de Jean-Baptiste, moi quand j'ai lu ça, je me dis, c'est bizarre. Il lui pose une question, de quelle autorité, etc. Et puis lui, il parle du baptême de Jean-Baptiste. En fait, il leur pose une question qu'il est... Mais en difficulté, je joue aux échecs avec ma petite fille. Elle a 7 ans. Elle apprend les échecs. Moi, je suis censé jouer depuis 50 ans, enfin même plus, 60 ans. Elle a fait un mouvement. Vendredi, elle a bougé un pion. Et elle m'a coincé. Ça fait 2 jours. Je suis resté 2 jours devant mon échiquier. Mais Je me suis dit, c'est pas possible. Elle a dû céder d'un ordinateur. Je sais pas, il y a quelqu'un derrière qui télé... Un pion. Et quelque part, elle a fait le mouvement intérieur qui lui appartenait et qui l'a mis en position de force. Tout part de ce que je vis, moi, à l'intérieur de moi. Et je dirais que Jésus coince les sacrificateurs par cette question. Alors, le baptême de Jean-Baptiste. Et finalement, les opposants vont faire trois mensonges guidés par l'hypocrisie. Un, ils ne pensent pas que Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu puisqu'ils n'ont pas cru en lui. Donc, ils mentent là-dessus. Deux, ils ont laissé accréditer auprès des foules l'idée selon laquelle ils reconnaissaient à Jean-Baptiste une autorité. Et là, ils ne peuvent pas prendre position là-dessus. Et trois, ils ont la conscience de jouer un double jeu. Alors ça les conduit au mensonge. Et donc, la réponse des responsables, c'est « on ne sait pas ». Est-ce que on ne sait pas. Et vous voyez l'ironie de la réponse ensuite de Jésus. Jésus qui leur dit bah, « moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela ». C'est-à-dire que dit ah bah on ne sait pas, bah moi non plus, je vais faire comme vous, hein, je ne vais pas vous dire. C'est assez ironique comme dialogue. Remarquez, nous ne savons pas, est-ce que nous sommes, nous aussi, dans la vérité quand nous dialoguons vers Christ concernant l'autorité qu'il a sur nous. Alors cette parabole, montre différentes étapes du verset 1 au verset 11 dans ce récit. Il y a d'abord le propriétaire de la vigne. C'est qui ? Si on devait, ce qui n'est pas conseillé dans cette parabole-là, mais dire qui est le propriétaire, on dirait c'est Dieu. Hein. Et puis ceux qui il l'entoure d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour. J'ai le souvenir vague de Jean-Marc Taubois qui nous a parlé de ce texte-là et qui disait comment, je dirais, la construction d'une tour et d'une cuve, c'est aussi la manière dont Dieu, dans son peuple, met à la fois un outil de surveillance pour voir comment l'adversaire peut venir pour grappiller les raisins, les renards, etc. Et donc, il y a une tour forcément dans tous les endroits où il y a une vigne. Et puis, il y a une cuve pour avoir de l'eau, pour donner de quoi boire à la vigne. Et j'irai dans l'église, il y a la même chose. Il y a des ministères qui sont là, comme il y en a eu en Israël avec les prophètes. Il y a une tour pour surveiller. Épiscopaux, c'est ceux qui surveillent, les anciens. Mais je dirais, on est tous appelés à surveiller ce que Dieu nous a confié, cette vigne qui est à lui. J'ai eu une très longue conversation avec Dorca vendredi soir. Elle m'a coincé dans sa voiture et je suis resté 2 heures. 2 heures dans sa voiture. Bon, elle était en panne. Toujours, voilà. Hein. Donc, en panne, on a parlé. Et je disais combien je suis réfractaire au principe ou au concept de leader. Vous savez, en même temps, je relativise parce que j'ai lu un livre d'un théologien de la fin du 19e siècle. Il parlait déjà de leader, mais dans une acception, je dirais, différente. Mais leader, c'est toujours celui qui conduit, etc. Et moi, j'en connais qu'un leader. C'est pas Michel. C'est pas Maurice Truc, qui est le pasteur qui m'a fait grandir quand j'étais jeune, c'est Christ. Le seul leader que je reconnais à l'Église, c'est ça, c'est lui. Après, on n'est que... C'est comme le pape, il n'y a qu'un pape dans l'Église catholique. Hein. Donc, pour nous, il n'y a qu'un leader, c'est Christ. Il y a un pape, il n'y a pas de sous-pape. Sauf dans sa papa mobile. Mais sinon, il n'y a qu'un pape. Hein. On est bien d'accord. Et donc, la notion de leader me dérange quand même forcément. Et je me dis... Quelque part, nous sommes tous surveillants de ce qui nous est confié. Et il n'y a qu'un responsable, qu'un seul chef de l'Église, Christ. Alors, les serviteurs ont été maltraités, tués dans la... On le voit aussi dans le livre d'Ésaïe, mais à la fois dans l'Évangile, c'est-à-dire que on le retrouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, verset 25. « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. » Ça veut dire que dans l'Église, il y a aussi cette tour qui est plantée pour que ceux qui sont à l'intérieur, avec cette mission de protéger cette vigne qui appartient, le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, l'Église aujourd'hui. Nous avons un devoir. Et puis, il envoie son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Venez, tuons-le. C'est pas une expression que vous avez déjà lue? Dans quel livre? Le livre de la Genèse. Au chapitre 37, et c'est qui? C'est quoi? C'est les frères de Joseph qui disent à un moment donné, devant la position préférentielle de leur frère par rapport au père, prenons-le, tuons-le. Et vous savez ce qu'ils font? Ils le mettent dans un puits, dans une cuve, et ils attendent pour le vendre en esclave pour partir en Égypte. C'est ce qui donne aussi tout le sens, ou je dirais, attire notre attention sur le fait que le récit de la vie de Joseph est un récit christologique. Tout ce que vit Joseph est en lien avec une révélation de Jésus-Christ. Venez, tuons-le. Et, j'ai envie de dire, les vignerons font la même chose. Et j'ai envie de dire, nous faisons la même chose dès lors que nous n'acceptons pas l'autorité de Christ. Nous tuons ce qui est possible de la révélation du Fils pour nous. C'est de cette nature-là. C'est de cette nature-là, frères et sœurs. Est-ce que nous voyons le sérieux de la chose? Et les vignerons partent de cette erreur monumentale. Ils pensent et ils veulent que la vigne soit à eux. Alors qu'ils n'ont juste qu'une délégation pour. Il est dit, dans le verset 1, un homme planta une vigne, c'est-à-dire Dieu, à planter, à poser ce territoire qui lui appartient, l'entoure d'une haie, creuse un pressoir, bâtit une tour, et il l'afferma à des vignerons. Il l'afferma, c'est-à-dire qu'il en donna la gérance. En parlant avec Dorcas, je disais, ce que j'aime beaucoup à Kevin, c'est qu'on ne dit jamais l'église de Jean-Marc et de Francine ou l'église de Jean-Marc et de Michel. On dit toujours l'église de Kevin. C'est très très bien. Amen. C'est pas l'église d'un homme ou d'une femme. C'est l'Église de Dieu. Nous n'en avons que la gérance. Alors je vous laisse avec ces pensées. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et je vous encourage à relire cette parabole des vignerons avec son préambule. Parce que ce qui donne tout son sens en sachant que nous sommes, nous aussi, sacrificateurs du Dieu vivant. Ayons la bonne attitude pour gérer les choses de Dieu. Pour nous-mêmes et aussi pour le monde. Amen.